Adjéré, Père Philippe, 22 décembre 1983, Saint-Joseph.
Il y a des questions, c'est pas étonnant. Quand il s'agit de l'art, tout le monde s'éveille. Hein. Quand il s'agit de la métaphysique, c'est plus difficile. Alors, je prends. L'analogue de la lumière pour la peinture, pour la peinture, du rythme pour la musique. Ne serait-il pas l'initiation pour la poésie, l'imitation pour la poésie? On verra ça après. On n'en est pas encore là, je reviens un tout petit peu sur la musique. Vous nous avez dit que les corps glorieux auront tous les habitus d'art. Je n'ai pas dit tout à fait ça, mais... C'est possible, c'est une idée. Tous les habitus d'art. Y aura-t-il encore du travail au ciel? Une demi-heure. Septième saut, une demi-heure de travail. On va ajouter à l'apocalypse. Hein. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tous les arts, toute la diversité des arts, hein, prenez toute la diversité des arts. Il y a des questions que j'ai prises parce qu'il y a des textes qui sont bien, que j'ai cité là-dedans, que je veux vous rappeler. Donc, toute la diversité des arts, poésie, musique, peinture, sculpture, art dramatique, le roman, c'est essentiel à la terre, il n'y aura plus de roman dans le ciel, la danse, l'architecture, le cinéma non plus, il n'existera pas dans le ciel, ça c'est des arts mineurs, n'est-ce pas? Alors, c'est les grands arts, n'est-ce pas? Et les grands arts, c'est ça, parce que art mineur, c'est roman et cinéma. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir à ceux qui sont des cinéastes de dire ça, mais je le dis en tant que philosophe. Hein. En tant que philosophe, le cinéma est toujours un art second. Et le roman est un art second. Pas un véritable grand art. On est très habitué à ça, alors pour nous, ça nous semble. Mais c'est justement ça, pour cela qu'on est souvent mal éduqué. Le cinéma n'éduque pas. Et le roman non plus. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de... Il y a des... Le démon rôde autour. Alors, il faut saisir que les grands arts, qui sont l'intelligence humaine liée aux diverses sensations, la sensation, on verra les diverses sensations, tout cela exprime, préfigure, la résurrection des corps. C'est ça que je voulais exprimer. La résurrection des corps. Et dans la résurrection des corps, notre corps sera l'œuvre de l'art de l'Esprit Saint. Ce n'est ni un art poétique, ni un art musical, ni un art de peinture, ni un art de sculpture, ni un art dramatique ou la danse ou l'architecture, mais tout cela sera présent éminemment. C'est ça qui est extraordinaire dans le corps glorifié. Tous les arts que nous connaissons ici sur la terre, si nous sommes croyants, donc au point de vue philosophique, je ne peux pas aller plus loin que de voir la diversité des arts. Mais si je suis croyant, je peux dire que toute la diversité des arts que je saisis ici, tout cela préfigure l'art de l'Esprit Saint glorifiant le corps de l'homme. Le corps du Christ glorifié actuellement, le corps de Marie glorifié actuellement, donne la finalité profonde à la poésie. Donc un poète chrétien ne peut que penser au corps glorieux du Christ. Pas nécessairement en acte explicitement, mais il est polarisé vers ça. La musique, c'est la même chose. La peinture, c'est la même chose. Tous, tous les arts sont ordonnés vers ça. Ça, on essaiera de le voir au terme. Ce sera... Parce que ça, c'est très important, vous voyez, pour l'art liturgique. Parce que l'art liturgique, notre art liturgique, est un art qui est lié au corps glorieux. Donc c'est un art qui prend une signification particulière grâce au corps glorieux. Là, il y a quelque chose de spécial, particulier. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous nous avez dit que les corps glorieux auront tous les habitus d'art. Non, tous les habitus d'art préfigurent l'art de l'Esprit Saint réalisant le corps glorieux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Y en aura-t-il du travail dans le ciel ? Ça, c'est... Il y aura de l'art. Il y aura de la liturgie. Sans répétition. Il y aura de la liturgie. Alors ce sera ni le grégorien, ni... Ce sera un art glorieux dont vous n'avez aucune idée. Alors si vous croyez trop que ce sera tel ou tel, vous serez déçus. N'est-ce pas ? Mais il faut comprendre que l'art liturgique du ciel est un art unique. Un art tout à fait spécial. On peut l'affirmer, vous voyez, c'est ça qui est très particulier. Il ne faut pas dire c'est purement imaginatif de dire ça. Non, ce n'est pas purement imaginatif. Parce que par la foi, j'ai un contact direct avec le corps glorieux du Christ. Je ne sais pas le comment du corps glorieux du Christ, mais je sais qu'il existe. Et j'ai une expérience divine du corps glorieux du Christ. De sorte que je peux parler des corps glorieux. Ce n'est pas imaginatif. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, oui, c'est imaginatif. Mais pour celui qui a la foi, ce n'est pas imaginatif. Et alors, connaissant, ayant cette connaissance de foi, cette connaissance par connaturalité, par la foi, l'espérance et l'amour, je peux comprendre comment tous les arts sont ordonnés à cet art suprême qui est l'art de l'Esprit Saint, qui est un art d'amour, qui est un art qui réalise tout substantiellement. Et alors là, ça devient quelque chose de très important au point de vue proprement théologique. Ce qui, dans la poésie, joue le rôle de la lumière dans la peinture, ne serait-il pas le rythme aussi, mais pas uniquement le rythme? Il y a toujours un très grand lien entre la musique et la poésie. Il ne faut jamais l'oublier. Toujours. Très bien. Mais plutôt le rythme lié à la signification des mots et du texte. La qualité de la poésie ne viendrait-elle pas de l'unité existant dans ce lien? L'image, métaphore, symbole. Pourrez-vous préciser quelle est sa place dans le poème? Nous y reviendrons. Alors, je vois tout de suite avec vous, il revient quelque... Alors, le musicien écrit maritain. Quand il s'agit de l'art et de la poésie, Maritain dit des choses extrêmement intéressantes, hein, faut pas l'oublier. Quand il parle de l'intuition métaphysique, je le critique, mais lorsqu'il s'agit de l'art, il y a des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord avec ce que dit Maritain, mais il y a des choses intéressantes. Il a quand même travaillé ça, un livre qu'on peut tous lire, vous savez, c'est sur la poésie et le point de vue proprement création poétique. Ce livre qu'il a écrit en Amérique, qui a été traduit en français par l'Abbé Journet, par la piété filiale de l'Abbé Journet. Et alors, c'est un beau livre, c'est un livre qui est à lire. C'est ceux qui aiment ça comme art et scolastique, c'est un livre à lire. Il n'y a pas grand-chose dans l'art et scolastique, c'est quelque chose qui reste assez proche de la scolastique, mais c'est quand même intéressant. Art scolastique, il l'a fait avec le père de Haut. C'était au temps où il était très disciple du Père de Haut. Après, il s'est un petit peu vedé. Le musicien, écrit Maritain, offre, à vrai dire, aux spéculations du philosophe une expérience privilégiée, moins liée à l'univers des idées humaines et des valeurs humaines que celui qui crée avec les vocables du langage des hommes, tandis que le poète crée avec le vocable des hommes. C'est là la très grosse différence. La matière du poète, c'est le langage. Le poète, il a un sens du langage très extraordinaire, dans la mesure même où il est poète. Comme le musicien a un sens du son, de la voix. Parmi les sons, la voix passe en premier lieu. C'est le maxime étalé, hein, la voix. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus d'instruments, il n'y aura plus d'orgue, il n'y aura plus de violon. Ça, c'est sûr. Mais la voix humaine suffira à tout. Parce que si la voix était parfaite, on n'aurait pas besoin d'instruments. Les instruments sont là comme des instruments pour la voix humaine, pour aider la voix humaine, pour permettre à la voix humaine. Mais au fond, c'est la voix qui, elle, est musicale. Et c'est elle que doit regarder le point de vue strict du musicien. C'est très beau, du reste, de voir ça. Donc, moins lié à l'univers des idées humaines et des valeurs humaines que celui qui crée avec les vocables du langage des hommes, moins lié que le peintre et le sculpteur aux formes et aux images des choses, moins lié que l'architecte aux conditions d'usage de la chose à créer, c'est dans le musicien que se vérifie de la façon la plus limpide les exigences métaphysiques de la poésie. Vous voyez, vous pouvez dire ça de tous les arts. Chaque art a un sommet. Chacun. Le peintre aura quelque chose que le musicien ne pourra pas dire. Le musicien dira quelque chose que le poète ne peut pas dire, et ainsi de suite. C'est comme pour les vertus. Saint Thomas, chaque fois qu'il traite d'une vertu, il montre que la vertu est la plus parfaite de toutes les autres. Alors, il est dit pour toutes. C'est magnifique. Ça prouve que chaque vertu touche un sommet. Et je peux dire ça de chacun. Alors, ce qui est intéressant, alors quand il dit ça, c'est là où on voit bien que ce n'est pas très précis. C'est dans le musicien que se vérifie de la façon la plus limpide les exigences métaphysiques de la poésie. Quelles sont les exigences métaphysiques de la poésie? Vous ne le savez pas, moi non plus. Parce que la poésie n'est pas métaphysique. Si la poésie était métaphysique, elle ne serait plus poésie. Il faut quand même distinguer, il ne faut pas appliquer la métaphysique partout. La métaphysique, c'est quelque chose de très particulier. Il suffit d'en faire pour le savoir, hein. C'est quelque chose de très particulier, ça part du jugement d'existence. Vous n'avez pas demandé au musicien, ah, jugement d'existence, qu'est-ce que c'est? Il s'en occupe pas. Et heureusement pour lui, il s'en occupe pas comme musicien du jugement d'existence. Il vit le rythme de la musique, le rythme des sons, c'est ça qu'il vit, mais c'est pas le jugement d'existence. Tandis que le métaphysicien, c'est ça qui l'intéresse. Il est au niveau ontologique. Le poète n'est pas au niveau ontologique. Voyez, alors c'est là où Maritain n'est pas assez précis, et c'est ça qui fait qu'une phrase comme celle-là, je la cite avec respect, mais ici on peut la critiquer, n'est-ce pas ? C'est pas précis du tout. Les exigences les plus limpides de la métaphysique, de la poésie. Et la poésie, on y reviendra tout à l'heure. La poésie n'est pas la musique, tandis que pour Maritain, vous voyez que la musique, ce serait le chef-d'œuvre de la poésie au niveau métaphysique. C'est pas vrai, parce que la musique, elle va enlever la peinture, Je ne reviendrai pas sur la peinture. Nous l'avons vu la dernière fois, ça ne veut pas dire. Il y a des tas de choses à dire sur la peinture. C'est l'art avec, auprès duquel le philosophe est le plus à l'aise, je crois. Je crois. C'est beaucoup plus la peinture, on pourrait dire, c'est là les exigences métaphysiques de la poésie seraient plus. Mais c'est, j'aime pas dire ça du tout parce que il y a des plaisirs de comprendre. La peinture, c'est la vie. C'est ça qui m'intéresse quand je dis la vie. Quelle est l'attraction du peintre, en tant que peintre, hein, en tant qu'il est artiste, qu'il réalise une œuvre. C'est la peinture, c'est la lumière qui donne la signification ultime de son œuvre. Alors faisons attention, c'est pas la lumière physique, vous comprenez bien. La lumière physique, il est épris de cette lumière physique, il l'aime, mais il la transforme. C'est la lumière picturale. Alors entre la lumière physique et la lumière de l'artiste, il y a une analogie. C'est pas la même. Si c'était la même, vous comprenez, il faudrait demander au peintre de devenir, je ne sais pas quoi, il viendrait le photographe quelquefois pour lui donner quelque chose de plus proche, une imitation. C'est pas une imitation, c'est une imitation, imitation, mais transformation. Donc, on comprend bien. C'est la lumière physique que nous aimons, la lumière physique qui nous chauffe, la lumière physique que nous admirons. Cette lumière physique, elle est source de l'inspiration du poète, du peintre. Elle est source de son inspiration. Mais il faut qu'il ait une inspiration lumineuse pour réaliser son œuvre. Il faudra qu'il comprenne cette espèce de chose particulière, de transposition de la lumière. Et on parlera de la lumière, et on dira encore c'est la lumière, et c'est vrai, parce que la lumière visible, la lumière sensible, c'est premier analogué de la lumière du peintre. Mais quand je dis premier analogué, comprenons bien, ça ne veut pas dire que la lumière du peintre dans son œuvre est relative à celle-là. Pas du tout. La lumière qu'il réalise dans son œuvre a une qualité sensible, artistique, supérieure à la lumière physique. C'est ça qu'on a beaucoup de peine quelquefois à comprendre. L'art n'est pas mesuré par la lumière physique. L'art a quelque chose d'unique qui est l'univers de l'homme. Et comme c'est l'univers de l'homme, c'est supérieur à l'univers physique. Je dis ça, c'est parce que quelquefois, on fait ça, c'est le rapport, c'est la relation qui peut exister entre. Et ça, c'est un problème très intéressant au point de vue philosophique. Le rapport qui peut exister entre la lumière sensible. Quand je parle de la lumière sensible, je viens de dire la lumière que nous sentons. Je ne dis pas la lumière du physicien. Le physicien vous donnera une équation pour vous faire comprendre ce que c'est que la lumière. Ça, c'est plus la lumière sensible. C'est plus la lumière sensible, c'est la lumière mesurable. Elle n'est pas faite pour ça. Premièrement, la lumière n'est pas faite premièrement pour être mesurée par le physicien. La lumière est faite premièrement pour que nous la sentons. Elle est faite premièrement pour l'homme. L'univers n'est pas fait premièrement pour être mesuré par le physicien. Il est fait premièrement pour la sensibilité de l'homme. Il ne faut pas oublier ça. C'est très important. La connaissance du physicien a une noblesse plus grande que la connaissance sensible de la lumière. J'ai dit une noblesse plus grande, parce que les mathématiques passent à travers ça. Et donc il y a une noblesse plus grande, mais ma connaissance sensible de la lumière a une qualité plus grande que la connaissance du physicien par rapport à la lumière. Il y a des choses très importantes. J'ai assisté l'année dernière à tout un congrès là-dessus sur la lumière. Alors il y avait un physicien, il y avait un artiste, un peintre, j'y allais comme philosophe pour animer le débat, si vous voulez, mais c'était très intéressant de voir tous ceux qui avaient une connaissance particulière de la lumière. Et chacun, instinctivement, prétendait que la connaissance qu'ils avaient de la lumière, c'était le premier. Alors il fallait donc voir les modalités différentes de la connaissance de la lumière. Et là, il y a des connaissances diverses de la lumière qui ne sont pas les mêmes. Il y a une connaissance physique, il y a une connaissance sensible, et puis il y a une connaissance artistique. La lumière que nous trouvons à travers une œuvre, dans une œuvre picturale, il y a une lumière. Vous dites, ah, comme c'est lumineux ce tableau. Ah, comme c'est beau, c'est la lumière qui apparaît. Donc, cette lumière de l'œuvre picturale n'est pas la lumière sensible que vous admirez en coucher de soleil ou en plein midi, et ce n'est pas la connaissance de la lumière qu'un physicien. Je prends trois connaissances différentes, on pourrait en ajouter une quatrième, vous voyez, la connaissance de la lumière chez le philosophe. Le philosophe doit, en philosophie de la nature, dire qu'est-ce que c'est que la lumière. Il doit réfléchir sur ce qu'est-ce que c'est que la lumière. Alors, vous avez tout. Notez, c'est toujours très intéressant ces choses-là, parce que, au point de vue critique, c'est très important de voir les diverses connaissances que nous avons d'une réalité aussi importante qu'est la lumière. On vit de lumière. Les Grecs avaient un sens de la lumière extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça? Alors, vous avez. Donc, je reprends la connaissance sensible. Vous avez, vous vous laissez impressionner par la lumière. La connaissance un peu poétique, si vous voulez. On pourrait dire poétique, d'une certaine manière, que vous avez devant un beau coucher de soleil. La connaissance proprement physique, la connaissance philosophique, et puis la connaissance d'une lumière artistique en œuvre artistique. Et alors, ce que j'ai dit, c'est que dans une œuvre picturale, la lumière qui est dans l'œuvre picturale, la lumière que vous saisissez, alors là c'est une autre lumière, hein. La lumière métallique, c'est encore une autre lumière, c'est prolongement de la connaissance physique, mais ce n'est pas la connaissance physique, hein. Vous recevez une autre lumière artificielle, très heureux de la voir. Très ennuyeux aussi, parce qu'elle supprime la lumière naturelle. Alors c'est très bien dans l'ordre pratique, mais autrement, non. Artistiquement, c'est pas grand-chose. On sent très bien quand la lumière électrique est trop violente, ça brûle tout. Ça devient une lumière métallique qui coupe tout. Et alors, la lumière que vous avez dans une œuvre d'art a une qualité supérieure à la lumière sensible que vous avez directement par rapport à l'univers. Parce que l'œuvre d'art a, du côté de la sensibilité, quelque chose de plus que la sensibilité du monde physique. Et donc, l'œuvre d'art qui réalise une lumière réalise quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'œuvre d'art soit mesurée par la réalité. L'œuvre d'art devrait imiter. Non, pas du tout. Transforme. Imitation dans le sens du pythagoricien, c'est-à-dire dépend d'eux. C'est simplement ça que ça veut dire, imitation. Dépend d'eux, mais en réalité, transforme. Et donne une qualité nouvelle. Donc la qualité numéro un, c'est la lumière artistique, c'est la lumière de l'œuvre d'art et du peintre. Puis, c'est la lumière sensible, puis la lumière philosophique et la lumière du physicien, la connaissance de la lumière du physicien. Il faut rappeler toutes ces choses-là. Bon. Alors, quand il s'agit de l'œuvre, nous sommes dans l'ordre de l'intentionnalité. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. C'est ça que Maritain n'a pas assez dit. C'est la différence avec la philosophie première, qui est « regarde ce qui est ». La métaphysique regarde ce qui est, l'artiste demeure dans les formes intentionnelles. L'artiste comme tel ne crée pas un nouvel être, mais il crée de nouvelles formes intentionnelles. Dans une œuvre artistique, il crée de nouvelles formes intentionnelles, il crée de nouvelles relations intentionnelles. Mais il n'arrive jamais à toucher ce qu'il y a de substantiel dans la réalité. La substance de la réalité n'est pas touchée par l'artiste. Ce que l'artiste atteint, c'est les qualités, c'est les formes intentionnelles. Vous voyez, une fois que vous avez compris ça, la parole de Maritain ne peut plus vous atteindre. C'est dans le musicien que se vérifient de la façon la plus limpide les exigences métaphysiques de la poésie. Il n'y a pas d'exigence métaphysique de la poésie, parce que s'il y avait des exigences métaphysiques de la poésie, il faudrait que la poésie puisse atteindre l'être. Il faudrait que le poète, quand il est inspiré, arrive à réaliser d'autres êtres. Et ses poèmes seraient d'autres êtres. Non, il ne le fait pas. Il fait d'autres œuvres. Et ça, c'est très important à noter. C'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas là reconnaître que le caractère propre de la musique est très difficile à préciser, hein? Quand Maritain dit ça, il donne sa langue au chat en disant tout simplement: c'est de la façon la plus limpide des exigences métaphysiques de la poésie. Ça, il ne dit rien du tout en disant ça. Donc, c'est très difficile à le caractère propre de la musique. C'est sûrement quelque chose qui est très particulier. Alors, ce qui nous intéresse toujours, c'est de voir comment Hegel, dans son esthétique, hein, Hegel, dans son système des arts, situe la musique en l'opposant à la peinture. Elle fait partie de la même sphère, mais son élément propre est l'intériorité comme telle, le sentiment dépourvu de forme. Et comment Hegel écoutait la musique? C'est intéressant, du reste, c'est très intéressant de voir ça. Donc, il l'opposait à la peinture. En l'opposant à la peinture. Elle fait partie, maintenant, connaissance dialectique, hein, elle fait partie de la même sphère, mais son élément propre est l'intériorité comme telle, le sentiment dépourvu de forme, qui se manifeste non dans la réalité extérieure, mais par une extériorisation instantanée, qui s'évanouit aussitôt apparue. Son contenu est ainsi formé par la subjectivité spirituelle dans son unité immédiate. Donc, la peinture, c'est la subjectivité spirituelle. Son contenu est formé par la subjectivité spirituelle. C'est très curieux. Alors, vous voyez, on pourrait presque alors dire, mais oui, alors on a la subjectivité parfaite, donc on aurait une espèce de ce qui est le plus parfait dans la pensée poétique, dans la pensée artistique. Pour Schopenhauer, la musique est l'art le plus métaphysique. Oui, il y a toujours la tendance, hein, c'est intéressant. Maritain, Hegel, Schopenhauer, c'est toujours la musique, on voit très bien. C'est la plus métaphysique, c'est l'art le plus métaphysique. Car elle exprime l'essence des choses. Ça, c'est encore mieux de dire ça. Suggérant, sans représenter de façon précise, aucune manière d'être des choses. Donc, il y a cette chose privilégiée de la musique, c'est que vous dépassez le conditionnement pour être au niveau des essences. Elle exprime l'essence des choses, suggérant, sans représenter de façon précise aucune manière d'être des choses. Donc elle dépasse toute la manière d'être pour saisir l'essence. De son côté, Gabriel Marcel. Vous savez, Gabriel Marcel avait inventé une musique à Fribourg, au début, j'étais à Fribourg, il y avait un petit groupe philosophie et artistique, et alors on commençait toujours le cours par jouer la musique de Gabriel Marcel sur le point de vue philosophique. Et alors on entrait dans cette musique extraordinaire. De son côté, Gabriel Marcel situe la musique au sommet de la métaphysique. C'est intéressant de voir qu'ils tournent tous autour, ils ont tous épris, tous ces philosophes, ils ont la musique c'est extraordinaire. Ça prouve que leur métaphysique n'est pas très forte. C'est ce qu'on peut dire, ça. Si leur métaphysique était un peu nette, ils comprendraient mieux. Situe la musique au sommet de la métaphysique, comme achevant tous nos efforts philosophiques, nous permettant de communier plus profondément avec la réalité que la connaissance philosophique. Donc grâce à la musique, vous êtes dans un état affectif et dans un état poétique tel que vous communiez plus profondément avec l'univers ou avec les hommes ou avec vous-même que par la connaissance métaphysique. En première année de métaphysique, je comprends. De fait, la musique, mais Gabriel Marcel ne dit pas ça auprès d'un an de métaphysique, il dit ça auprès de 20 ans, 30 ans de métaphysique. C'est différent. De fait, la musique, on l'a assez dit, échappe au verbe logique. Ça, c'est vrai. Dans son aspect mélodique, elle est inaccessible à la logique de notre conscience. Si la musique, comme tout art, dévoile un monde, pour reprendre une expression de Dufresne, c'est toutefois un monde qui ne peut être montré aux yeux ou démontré à l'intelligence. C'est vrai, il y a un monde musical, ça je suis tout à fait d'accord de dire qu'il y a un monde musical. Mais il ne faut pas dire que ce monde musical est plus réel que le monde réel. Non, c'est autre chose. Ce monde musical, il est intentionnel. Au point de vue philosophique, si je veux essayer de c'est un monde intentionnel. C'est un monde que l'homme se crée. Il se crée un monde. Et aujourd'hui, vous voyez comme c'est vrai de voir quand on se promène avec son monde musical, c'est toute la journée. Et on fait de la métaphysique, on lit avec son monde musical. Pas si. Ou le silence, c'est difficile. Alors c'est vrai qu'il y a un monde musical qui est différent du monde pictural, différent du monde de l'intelligence. Il ne peut être dit que par la musique. Il s'évanouit dès qu'elle se tait. C'est vrai. La musique a cette chose très très particulière, elle est dans l'exercice. Elle n'existe que dans l'exercice. La peinture demeure. La poésie demeure. Tandis que la musique, non. Alors pourquoi ça, hein? Pourquoi c'est le domaine du son, le domaine du rythme, ce domaine qui nous échappe. Elle dépeint, comparant la musique à la poésie, elle dépeint provoque un état d'âme sans en déterminer les causes, bien évident, c'est déjà bien de le dire, tandis que sa sœur, la poésie, faisant usage d'un langage articulé, l'explique, mais elle n'explique pas les causes, le commente comme le fait la légende sous le dessin. Comparaison, c'est une analogie lointaine. À vrai dire, elles se complètent l'une l'autre, musique et poésie. Et malgré leur scission momentanée, elles tendent toujours à se réunir, car ce n'est que par l'association qu'elles peuvent atteindre leur maximum d'intensité de pénétration. C'est vrai, c'est très vrai qu'il y a un lien très particulier entre poésie et musique, mais ça ne dit absolument pas ce que c'est que la musique. Ça ne dit absolument pas. Alors, il faut essayer de pénétrer, voir combien, j'en passe, hein, je vous montre simplement au début combien c'est difficile de préciser ce que c'est que la musique, et de préciser, vous voyez, autant, je dirais, pour l'art pictural, on précise tout de suite la lumière. C'est très curieux. Et ça, tous les artistes sont d'accord. Combien c'est difficile de préciser ce que c'est que la musique. Parce que la musique est beaucoup plus affective. Pas la lumière, beaucoup plus affective. Elle est beaucoup plus affective que la poésie. Beaucoup plus. La poésie est affective, mais elle a un élément intellectuel dans la poésie. Il y a un élément intellectuel aussi dans la musique, ça c'est sûr, mais pas de la même manière. La musique est plus affective. Stravinsky, qui considère la musique par son essence impuissante à exprimer quoi que ce soit, s'oppose avec force à la musique de Wagner. Pour lui, c'est demander l'impossible à la musique, après l'avoir complètement désorientée, en supprimant toute contrainte, que d'attendre qu'elle exprime des sentiments, qu'elle traduise des situations dramatiques, qu'elle imite enfin la nature. Ça, c'est très intéressant. Très bien, tout le romantisme. Tout le romantisme demande à la musique d'exprimer des sentiments, donc le côté affectif. Exprimer des sentiments. Alors, Stravinsky, qui veut aller vers quelque chose d'assez nouveau, il ajoute, comme si ce n'était pas assez de la condamner au métier d'illustrateur. Le siècle auquel nous devons ce qu'on a appelé le progrès des Lumières, inventé par surcroît cette absurdité monumentale qui consiste à distribuer à chaque accessoire, comme à chaque sentiment et à chaque personnage, du drame lyrique, une sorte de numéro de vestiaire qu'on dénomme le leitmotiv. Qui faisait dire à Debussy que la tétralogie lui apparaissait comme un vaste bottin musical. Alors vous voyez bien, ça c'est Stravinsky qui va jusqu'au bout. Honegger, par contre, qui tend avant tout à s'exprimer par la musique, défend la musique à programmer et même la musique descriptive. J'aime pleinement que la musique puisse se substituer aux autres formes d'art. Et je l'avoue, conscient du mépris que cela me vaudrait auprès des puristes de la soi-disant musique pure, l'évocation d'une musique visuelle par une combinaison sonore me paraît, au point de vue artistique, absolument licite. Pourquoi la valeur intrinsèque des quatre mesures changerait-elle du fait qu'elle représente un chant d'oiseau au lieu d'être contre-sujet de fugue? Donc il veut reprendre autre chose. Pour vous montrer la difficulté, vous regarderiez les artistes eux-mêmes qui définissent la musique, c'est tout le temps contradictoire. Mais plutôt de continuer à opposer les musiciens sur cette question, essayons. Rappelons en dernier lieu la différence que Rameau souligne entre un savant musicien et un musicien artiste. Ça, c'est de la finesse. Hein. Le premier, à qui rien n'échappe dans les différentes combinaisons des notes. Rameau le juge un musicien de l'école, école où il n'est question que de notes, et rien de plus. De sorte qu'on a raison de lui préférer un musicien qui se pique moins de science que de boue. Cependant, Rameau estime qu'un musicien qui ne serait musicien que de goût, tirant toutes ses sensations et de son imagination, sans aucun secours de l'art, s'userait vite et que l'on ne trouverait plus chez lui que redites ou platitudes. Il souhaiterait pour le théâtre un musicien qui aurait de la nature une véritable science avant que de la peindre. L'art est pour Rameau cette connaissance intellectuelle qui apporte une profondeur, une structure, une unité vitale que ni les sens, ni l'imagination ne peuvent donner. Ça, c'est très juste. Et dans la musique même, il y a l'intelligence. Quand la musique se tombe uniquement vers le point de vue affectif, vers les points de vue des sentiments, vous avez ce qu'on appelle la musique romantique qui perd sa véritable force. Et Rameau, alors, c'est, je crois, très juste, c'est intéressant toujours pour progresser dans ce que c'est que l'art, parce que c'est ça qu'on cherche. Alors, si on veut progresser dans ce que c'est que l'art, il faut entendre des artistes. Et les musiciens viennent parler, les peintres, non. Je vous ai dit, il ne faut jamais demander à un peintre de dire ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, jamais. Un musicien, oui, après le concert, il vous parlera indéfiniment. C'est très curieux, ça. C'est pas étonnant, parce que pendant tout le concert, il a gardé le silence. Alors, il a fait parler un autre, mais il a gardé le silence. Tandis que là, il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. L'art est pour Rameau cette connaissance intellectuelle qui apporte une profondeur. Alors, vous voyez les notes de la connaissance intellectuelle telles qu'un Rameau le donne. In tous leggere. C'est bien saint Thomas. C'est intéressant de l'entendre dire par quelqu'un comme ça, qui apporte une profondeur, intus leggere, lire de l'intérieur, une structure, c'est une connaissance qualitative, une structure, une unité vitale, c'est une connaissance qui implique une certaine unité, une certaine que ni les sens, ni l'imagination ne peuvent donner. Donc l'art est lié à l'intelligence. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Alors, je verrai rapidement la fois prochaine, après vous avoir montré le gouffre dans lequel on entre quand on veut préciser philosophiquement ce que c'est que la musique. Et c'est vrai, c'est un gouffre. Je le prends du côté de la musique parce que c'est là où le gouffre est le plus grand. Alors, relisez maintenant ce que dit Marie-Saint pour comprendre la profondeur du gouffre, n'est-ce pas ? C'est dans la musique que se vérifient de la façon la plus limpide les exigences métaphysiques de la poésie. Alors, vous voyez que ces exigences métaphysiques, personne ne veut préciser ce que c'est. Si vraiment la musique vérifiait de la façon la plus limpide les exigences métaphysiques de la poésie, ce serait en musique que ce serait le plus net. Parce que les exigences métaphysiques, c'est normalement ce qu'il y a de plus net. Surtout quand elles sont limpides. Je crois que c'est en peau, c'est beaucoup plus dans la peinture que nous avons quelque chose de beaucoup plus limpide. Peinture et poésie. Peinture et poésie qui sont les deux arts qui sont les plus proches de l'intelligence. Et donc là où, de fait, la limpidité de l'intelligence est la plus nette. La musique, c'est sûrement plus affectif. Mais c'est sûrement pas uniquement affectif. Si on veut définir la musique uniquement d'un point de vue affectif, c'est le sentiment. Alors, ce n'est plus la musique. Ce n'est plus un art. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Hein, comment l'intelligence, à travers la qualité, la peinture, à travers le son, à travers la parole, le langage, l'intelligence va se servir des diverses sensations pour s'exprimer d'une manière spéciale, d'une manière unique. Et chaque fois, à travers la diversité des arts, l'intelligence s'exprime d'une façon unique. C'est l'intelligence qui se dit. Elle se dit dans la lumière, elle se dit à travers le rythme, elle se dit à travers le rythme et une certaine signification qui n'est pas la signification philosophique, qui est une autre signification, qui est une signification poétique, et ainsi de suite. C'est ça qui me semble très important à saisir dans l'art, parce que c'est quand même toujours l'intelligence, c'est pas la raison. Alors, il faut passer par l'art dans notre monde d'aujourd'hui pour redécouvrir l'intelligence distincte de la raison. Si vous ne passez pas par l'art, vous aurez beaucoup de peine de redécouvrir une intelligence distincte de la raison. L'art n'a rien à faire avec la raison logique, mais rien du tout. Ça n'a rien à faire avec la raison logique. Et c'est pourtant l'intelligence. Une forme d'intelligence, une profondeur d'intelligence, qui est l'intelligence qui, de l'intérieur, donne la signification. Qui, de l'intérieur, donne la signification. De l'intérieur, saisit les choses. Alors que la raison ne saisit pas de l'intérieur. La raison saisit par référence, par relation, par manière de se référer à un autre et de référer l'autre à soi. Alors c'est tout à fait différent.